Chapitre 25. L'œuf et l'œil. Comme Harry n'avait aucune idée du temps qu'il lui faudrait pour percer le secret de l'œuf d'or, il décida de prendre son bain la nuit, afin de pouvoir rester dans la baignoire aussi longtemps qu'il serait nécessaire. Et malgré ses réticences à accepter les conseils de Cédric, il décida également d'utiliser la salle de bain des préfets. Elle était réservée à quelques rares élus, il courait donc moins de risques d'y être dérangé. Harry organisa soigneusement son escapade. Il lui était déjà arrivé une fois de se faire prendre par Rusard, le concierge, dans un endroit interdit au milieu de la nuit, et il n'avait aucune envie de renouveler l'expérience. La cape d'invisibilité lui serait bien entendu indispensable, et comme précaution supplémentaire, il avait prévu d'emporter la carte du maraudeur. En dehors de la cape, c'était l'objet le plus utile qu'il possédait, quand il s'agissait de violer le règlement. La carte représentait l'école tout entière, y compris les raccourcis et les passages secrets, mais plus important encore, elle indiquait la présence de quiconque se trouvait dans le château sous la forme de minuscules points accompagnés du nom de la personne. Ainsi, Harry serait averti si quelqu'un s'approchait de la salle de bain. Le jeudi soir, Harry monta discrètement dans le dortoir, se recouvrit de la cape d'invisibilité et redescendit en silence. Puis, comme il l'avait fait le soir où Hagrid lui avait montré les dragons, il attendit que le portrait de la grosse dame pivote pour lui permettre de sortir. Cette fois, c'était Ron qui se trouvait de l'autre côté et qui avait prononcé le mot de passe « banane frite » au moment voulu. « Bonne chance !» murmura Ron en le croisant. Cette nuit-là, il ne fut pas très facile de se déplacer avec la cape d'invisibilité sur la tête. Harry devait en effet porter le gros œuf d'une main et tenir de l'autre la carte du maraudeur qu'il consultait à chaque endroit stratégique pour s'assurer qu'il n'y avait personne d'indésirable dans les parages. Par chance, les couloirs éclairés par des rayons de lune étaient déserts et silencieux. Quand il fut arrivé devant la statue de Boris le Hagard, un sorcier à l'air ahuri qui portait ses gants à l'envers, il repéra la porte qu'il cherchait, se pencha en avant et murmura le mot de passe « fraîcheur des pins », comme le lui avait indiqué Cédric. La porte s'ouvrit aussitôt en grinçant. Harry se glissa par l'entrebâillement, ferma le verrou derrière lui et enleva sa cape d'invisibilité. À en juger par ce qu'il voyait autour de lui, il valait la peine d'être préfet rien que pour avoir le droit d'utiliser cette salle de pain. Un magnifique lustre de chandelles éclairait les lieux d'une lumière douce et tout était en marbre blanc, y compris l'espèce de piscine rectangulaire aménagée dans le sol au milieu de la pièce. Une centaine de robinets d'or s'alignaient tout autour, chacun incrusté d'une pierre précieuse différente. Et il y avait même un plongeoir. De longs rideaux de lin blanc étaient accrochés aux fenêtres, une grande pile de serviettes blanches et moelleuses était posée dans un coin et un unique tableau, entouré d'un cadre doré, ornait le mur. Il représentait une sirène blonde, profondément endormie sur un rocher, ses longs cheveux ondulant devant son visage à chaque respiration. Harry s'avança dans la pièce, ses pas résonnant contre les murs de marbre. Certes, la salle de bain était splendide, et il avait très envie d'essayer quelques-uns de ses robinets. Mais maintenant qu'il était là, il n'arrivait pas à se débarrasser de la désagréable impression que Cédric l'avait fait marcher. En quoi cette salle de bain pourrait-elle bien l'aider à découvrir la clé du mystère de l'œuf d'or? Il prit sur la pile une des serviettes blanches et la posa avec la cape, la carte et l'œuf au bord de la baignoire de la taille d'une piscine. Puis il s'agenouilla et ouvrit les robinets. Il en sortit un mélange d'eau et de diverses sortes de bains moussants que Harry n'avait encore jamais vus. De l'un des robinets s'écoulaient des bulles roses et bleues de la taille d'un ballon de football. Un autre déversait une mousse d'un blanc de glace si épaisse que Harry eut l'impression qu'elle aurait pu supporter son poids, et un troisième projetait des nuages pourpres au parfum entêtant qui flottait à la surface de l'eau. Pendant un moment, Harry s'amusa à ouvrir et fermer plusieurs robinets. Il apprécia particulièrement celui dont le jet rebondissait sur l'eau en décrivant de grands arcs qui jaillissaient dans tous les sens. Lorsque le bassin fut rempli d'eau chaude, de mousse et de bulles, ce qui ne prit guère longtemps par rapport à sa taille, Harry ferma tous les robinets, enleva sa robe de chambre, ses pantoufles, son pyjama, et se glissa dans l'eau. Elle était si profonde que ses pieds touchaient à peine le fond, et il fit même deux longueurs avant de revenir à l'endroit où il avait posé l'œuf. Il était sans doute très agréable de pouvoir nager dans une eau bien chaude, agrémentée de mousse et de nuages multicolores qui flottaient autour de lui, mais aucune idée brillante, aucune révélation soudaine ne vint l'aider à découvrir ce que cachait l'œuf d'or. Harry tendit les bras, prit l'œuf entre ses mains mouillées et l'ouvrit. La plainte assourdissante retentit dans la salle de bain en résonnant contre les murs de marbre, mais resta aussi incompréhensible qu'auparavant, sinon plus, en raison de l'écho. Harry referma l'œuf d'un coup sec, craignant que le bruit n'attire Rusard. Il se demanda même si ce n'était pas ce qu'espérait Cédric. Tout à coup, une voix s'éleva derrière lui et lui fit faire un tel bond que l'œuf lui échappa des mains et roula à l'autre bout de la salle de bain dans un bruit métallique.
« Si j'étais toi, j'essaierais de le mettre dans l'eau. »
Sous le choc, Harry avait avalé une bonne quantité de bulles. Il se releva en crachotant et vit le fantôme d'une jeune fille au visage sinistre, assise en tailleur sur l'un des robinets. C'était Mimi Géniarde, qu'on entendait habituellement sangloter dans le conduit d'évacuation des toilettes trois étages plus bas.
« Mimi !» s'exclama Harry, scandalisé. « Je n'ai rien sur moi !»
La mousse était si épaisse que c'était sans grande importance. Mais il avait l'impression désagréable que Mimi l'avait espionné, caché dans un robinet, depuis son arrivée dans la salle de bain.
« J'ai fermé les paupières quand tu t'es mis dans l'eau, »
dit-elle en clignant des yeux derrière ses épaisses lunettes.
« Ça fait une éternité que tu n'es pas venu me voir. »«
Oh, tu sais, » dit Harry en fléchissant un peu les genoux pour être sûr que Mimi ne puisse rien voir d'autre que sa tête. « Je ne suis pas censé aller dans les toilettes des filles. »
« Avant, ça ne te dérangeait pas, » répondit Mimi d'un air affligé. « Vous veniez sans cesse, tous les trois. »
Elle avait raison, mais c'était uniquement parce que Harry, Ron et Hermione s'étaient aperçus que les toilettes hors d'usage de Mimi étaient un endroit pratique pour préparer en secret du polynectar, une potion interdite qui avait permis à Harry et à Ron de se transformer pendant une heure en sosie de crabe et de goyle afin de pouvoir s'introduire dans la salle commune de Serpentard. « J'ai eu des ennuis parce que j'y étais allé, » dit Harry, ce qui était à moitié vrai. Un jour, en effet, Percy l'avait surpris alors qu'il sortait des toilettes de Mimi Géniarde. Après ça, je me suis dit qu'il fallait mieux ne pas y retourner.
« Ah bon? Je comprends, »
répondit Mimi en tripotant d'un air maussade un bouton qu'elle avait sur le menton.
« En tout cas, à ta place, j'essaierai de mettre l'œuf dans l'eau. C'est ce qu'a fait Cédric Diggory. »
Lui aussi, tu l'as espionné ?» s'indigna Harry. « Alors tu passes tes soirées ici à venir voir les préfets prendre leur bain ?»«
Ça m'arrive, »
avoua Mimi d'un air un peu sournois.
« Mais je n'avais encore jamais parlé à personne. »«
C'est un grand honneur pour moi, » dit sombrement Harry. « Et maintenant, ferme les yeux. » Il attendit que Mimi mette ses mains devant ses lunettes avant de se hisser hors de l'eau, puis il attacha soigneusement la serviette autour de sa taille et alla chercher l'œuf. Lorsqu'il fut de retour dans l'immense baignoire, Mimi écarta les doigts et dit «
« Vas-y maintenant, ouvre-le sous l'eau. »
Harry plongea l'œuf sous la surface recouverte de mousse et l'ouvrit.
Cette fois,
ce ne fut pas une plainte qui s'en échappa, mais une chanson dont l'eau transformait les paroles en une sorte de gargouillement inintelligible.
« Il faut que toi aussi tu sois sous l'eau, »
dit Mimi apparemment ravie de lui donner des instructions.
« Allez, vas-y. »
Harry prit une profonde inspiration et se laissa glisser dans l'eau. Assis au fond du bassin rempli de bulles, il entendit alors un chœur de voix étrange et un peu effrayante qui s'élevait de l'œuf ouvert.
« Descends nous visiter et entends nos paroles. Nous devons pour chanter être au-dessous du sol. » « À présent, réfléchis, exerce ton esprit. Ce qui t'est le plus cher, te l'avons ravi. Pendant une heure entière, il te faudra chercher si tu veux retrouver ce qu'on t'a arraché. Après le récoller, renonce à tout espoir. » Tes efforts seront vains, car il sera trop tard.
Harry se laissa remonter et apparut à la surface, secouant la tête pour rejeter ses cheveux qui lui tombaient dans les yeux.
« Alors, tu as entendu ?»
demanda Mimi. « Oui. Descends nous visiter et entends nos paroles. Attends, pour être plus sûr, je vais l'écouter encore une fois. » Et il replongea sous l'eau.
il lui fallut écouter encore 3 fois la chanson de l'œuf avant de la connaître par cœur. Il se mit alors à réfléchir en barbotant dans l'eau, tandis que Mimi restait assise à le regarder. « Il faut que je rende visite à des gens qui ne peuvent chanter au-dessus du sol, » dit-il lentement. « Qui ça peut-être ?»«
Oh, mais ce n'est pas très vif, on dirait !»
Il n'avait jamais vu Mimi Géniard aussi joyeuse, sauf le jour où Hermione s'était retrouvée avec une tête de chat après avoir bu une dose de polynectar mal préparée. Harry regarda tout autour de la salle de bain, cherchant une idée. Si les voix ne pouvaient être entendues que sous l'eau, elles devaient en toute logique appartenir à des créatures aquatiques. Il fit part de cette théorie à Mimi, qui eut un petit sourire narquois.
« C'est ce qu'a pensé Cédric Diggory. » dit-elle. « Il est resté un temps fou à parler tout seul. Vraiment très longtemps, presque toutes les bulles avaient disparu. »«
Sous l'eau, » dit Harry avec lenteur. « Mimi, qui vit dans le lac à part le calmar géant ?»«
Oh, toutes sortes de créatures. Parfois, je me retrouve là-bas, malgré moi, quand quelqu'un tire la chasse d'eau de mes toilettes au moment où je m'y attends pas. »
Harry essaya de ne pas imaginer Mimi Géniard entraînée dans un conduit d'évacuation avec le contenu d'une cuvette de toilette. « Et est-ce qu'il y a quelqu'un dans le lac qui a une voix humaine ?» dit Harry. « Attends. » Harry venait de poser les yeux sur le tableau de la sirène endormie. « Mimi, il n'y a pas de sirène dans le lac ?»«
Oh, ben bravo !»
dit-elle, le regard pétillant derrière ses grosses lunettes.
« Diggory a mis beaucoup plus longtemps que toi pour trouver. Oh, oui. Et en plus, elle était réveillée le jour où il est venu. Oui. »
Mimi montra la sirène d'un signe de tête, une expression de dégoût sur son visage sinistre.
Elle n'arrêtait pas de glousser, de faire son intéressante, d'exhiber ses nageoires.
« C'est ça, alors ?» dit Harry surexcité. « Pour la deuxième tâche, il faut plonger dans le lac et trouver des sirènes. » Mais il se rendit soudain compte de ce qu'il était en train de dire et sentit l'excitation le quitter comme l'eau d'une baignoire qu'on vide. Il n'était pas très bon nageur. Il n'avait pas souvent eu l'occasion de s'entraîner.
Dudley avait pris des leçons de natation quand ils étaient enfants. Mais la tante Pétunia et l'oncle Vernon, espérant sans doute que Harry finirait par se noyer, ne s'étaient pas souciés de lui en donner. Faire 2 longueurs dans ce bain, c'était une chose, mais le lac, lui, était très grand et très profond, et les sirènes devaient sûrement vivre tout au fond.
« Mimi, » dit lentement Harry, « comment je vais faire pour respirer sous l'eau ?» Aussitôt, les yeux de Mimi se remplirent à nouveau de larmes.
« Quel manque de tact !»
marmonna-t-elle, fouillant dans la poche de sa robe pour y chercher un mouchoir. « Pourquoi un manque de tact ?» s'étonna Harry déconcerté.
« Parlez de respirer devant moi !»
s'écria-t-elle d'une voix perçante qui résonna avec force dans toute la salle de bain.
« Alors que je ne peux, que je n'ai depuis une éternité !»
Elle enfouit son visage dans son mouchoir et se mit à renifler bruyamment. Harry se souvint que Mimi était très susceptible chaque fois que quelque chose pouvait lui rappeler qu'elle était morte. Heureusement, les autres fantômes du château ne faisaient pas tant d'histoires à ce sujet.
« Désolé, » répliqua-t-il d'un ton agacé. « Je ne voulais pas dire, j'ai simplement oublié. »
« Oh, c'est très facile d'oublier que Mimi est morte !»
dit Mimi Géniard dans un sanglot en le regardant de ses yeux gonflés de larmes.
« Je n'ai jamais manqué à personne. » Même quand j'étais vivante, ils ont mis des heures et des heures à retrouver mon corps. Je sais, j'étais assise là à les attendre. Olive Hornby est entrée dans les toilettes. Ah, as-tu encore là à bouder, Mimi ? Elle m'a dit. Le professeur Dipex m'a demandé d'aller te chercher. Et là ? Elle a vu mon cadavre. Ouh, je me suis juré qu'elle s'en souviendrait jusqu'à sa mort. Je l'ai suivi partout pour le lui rappeler. Je me souviens le jour où son frère s'est marié.
Mais Harry n'écoutait pas. Il repensait à la chanson des sirènes. Ce qui t'est le plus cher, nous te l'avons ravi. Cela devait signifier qu'il s'apprêtait à lui voler quelque chose qu'il devait récupérer. Qu'allait-il donc lui prendre ?
Alors, bien sûr, elle est allée se plaindre au ministère de la magie pour que j'arrête de la suivre partout, et j'ai donc été obligé de revenir ici et de m'installer dans les toilettes, voilà.
Très bien tout ça, dit Harry d'un ton vague. J'ai quand même beaucoup avancé. Ferme encore les yeux, s'il te plaît, je sors du bain. Il récupéra l'œuf resté au fond de l'eau, se hissa hors de l'immense baignoire, se sécha et remit son pyjama et sa robe de chambre.
« Tu viendras me voir dans mes toilettes un de ces jours ?»
demanda Mimi Géniard d'un air lugubre, tandis que Harry ramassait sa cape d'invisibilité.
« J'essaierai, » répondit Harry tout en pensant que s'il devait un jour retourner voir Mimi, ce serait parce que toutes les autres toilettes du château seraient bouchées.
« À bientôt, Mimi. Merci pour ton aide. »«
Au revoir, »
répondit Mimi d'une voix sinistre. Et elle disparut dans l'un des robinets pendant que Harry remettait sa cape d'invisibilité. Dans le couloir, Harry examina la carte du maraudeur pour vérifier que la voie était libre. Les points qui représentaient Ruzard et Mistaigne restaient immobiles dans leur bureau. Rien d'autre ne semblait bouger, à part Peeves, qui s'agitait dans la salle des trophées à l'étage au-dessus. Harry venait de faire le premier pas en direction de la tour de Gryffondor lorsque quelque chose, sur la carte, attira son attention. Quelque chose de très étrange. Peeves n'était pas le seul à bouger. Un autre point s'était animé dans une pièce située dans le coin inférieur gauche de la carte, le bureau de Rogue. Et ce point ne portait pas le nom de Severus Rogue, mais celui de Barthémius Croupton. Monsieur Croupton, disait-on, était trop malade pour aller travailler ou pour assister au bal de Noël. Dans ce cas, que faisait-il à rôder dans le château à 1 h du matin ? Harry observa attentivement le point qui tournait autour du bureau de Rogue en s'arrêtant ici ou là. Harry hésita. Il réfléchissait et sa curiosité finit par l'emporter. Il tourna les talons et repartit dans la direction opposée, décidé à aller voir ce que fabriquait Croupton. Il descendit l'escalier en s'efforçant de faire le moins de bruit possible, mais les personnages des tableaux tournaient parfois la tête vers lui lorsqu'une lame de parquet grinçait sous ses pas ou qu'ils entendaient le froissement de sa robe de chambre. Il longea un couloir à l'étage au-dessous, écarta une tapisserie située à mi-chemin et emprunta un autre escalier plus étroit, un raccourci qui lui permettait de descendre 2 étages d'un coup. Il jetait sans cesse des regards à la carte en se posant des questions. Comment imaginer qu'un homme aussi respectueux des règlements que M. Croupton s'introduise dans le bureau de quelqu'un d'autre en pleine nuit. Parvenu au milieu de l'escalier, Harry, qui ne pensait plus à rien d'autre qu'à l'étrange comportement de M. Croupton, sentit soudain sa jambe s'enfoncer dans la marche piégée que Neville oubliait toujours de sauter. Il perdit l'équilibre et l'œuf d'or, encore humide de l'eau du bain, glissa dessous son bras. Il essaya de le rattraper, mais trop tard, l'œuf tomba le long de l'escalier, rebondissant sur chaque marche avec un bruit de grosse caisse. La cape d'invisibilité glissa à son tour, mais cette fois, Harry parvint à s'en saisir. En revanche, la carte du maraudeur lui échappa et volta un peu plus bas. La jambe enfoncée jusqu'au genou au travers de la marche, il n'arrivait pas à tendre le bras suffisamment loin pour la ramasser. Arrivé au pied de l'escalier, l'œuf d'or traversa la tapisserie qui masquait le passage secret, s'ouvrit et laissa échapper sa longue plainte dans le couloir de l'étage inférieur. Harry sortit sa baguette magique et s'efforça d'en toucher la carte du maraudeur pour l'effacer, mais il lui fut impossible de l'atteindre. Remettant la cape d'invisibilité sur sa tête, Harry se redressa, l'oreille aux aguets, le visage tendu par la peur, et presque aussitôt...
« Peeves !»
Impossible de s'y tromper, c'était le cri de guerre de Ruzard le concierge. Harry entendit ses pas précipités qui se rapprochaient et sa voix sifflante qui résonnait avec fureur dans le couloir.
« Qu'est-ce que c'est que ce vacarme ? Tu veux vraiment réveiller ton château ? Cette fois, je vais te coincer, Peeves. Oui, je vais te coincer. Qu'est-ce que c'est que ça ?»
Les pas de Ruzard s'arrêtèrent net. Il y eut un bruit de métal et la plainte s'interrompit. Ruzard avait ramassé l'œuf et l'avait refermé. Harry resta parfaitement immobile, la jambe toujours emprisonnée dans la marche piégée, l'oreille tendue. À tout moment, Ruzard allait écarter la tapisserie en s'attendant à voir Peeves, mais il n'y aurait pas de Peeves. En revanche, s'il montait l'escalier, il trouverait la carte du maraudeur, et cap d'invisibilité ou pas, la carte lui indiquerait que Harry Potter se trouvait à quelques pas de lui.
« Un œuf ?»
murmura Ruzard au pied de l'escalier.
« Bien, ma jolie, De toute évidence, Miss Stein se trouvait avec lui. C'est un des accessoires du tournoi. Cet œuf appartient à un champion de l'école.
Harry sentit son estomac se retourner et son cœur battre soudain très vite.
Peeves, gronda Ruzard d'un ton triomphant, tu as volé quelque chose?
Il écarta la tapisserie d'un geste brusque et Harry vit apparaître son visage aux horribles bajoues, ses yeux pâles, exorbités, scrutant l'escalier qui, grâce à la cape d'invisibilité, lui semblait désert.
« Tu te caches, n'est-ce pas ? » dit-il à voix basse. « Mais je vais t'attraper, Peeves. Tu vas voler un objet à un champion du tournoi, Peeves. Dumbledore va te renvoyer quand il apprendra ça, espèce d'abominable petit voleur. »
Ruzard commença à monter les marches, son chat grisâtre et décharné sur ses talons. Comme ceux de son maître, les yeux de Miss Stein ressemblaient à deux petites lampes braquées sur Harry. Il s'était déjà demandé si la cape d'invisibilité protégeait du regard des chats. Malade de peur, il regardait Ruzard s'approcher de plus en plus, vêtu de sa vieille robe de chambre de flanelle. Il essaya désespérément de dégager sa jambe, mais il ne réussit qu'à s'enfoncer un peu plus dans le trou. À tout instant, Ruzard allait voir la carte du maraudeur ou se cogner contre lui.
Ruzard, qu'est-ce qui se passe ?
Ruzard s'arrêta à quelques marches de Harry et se retourna. Au pied de l'escalier se tenait la seule personne qui pouvait encore aggraver la situation, Rogue. Vêtu d'une longue chemise de nuit grise, il avait le teint livide.
C'est Peeves, professeur, murmura Ruzard d'un ton hargneux. Il a jeté cette œuf dans l'escalier.
Rogue monta rapidement les marches et s'arrêta à côté de Ruzard. Harry serra les dents, convaincu que le bruit de son cœur qui battait à lui rompre les côtes allait trahir sa présence.
« Peeves ?»
dit Rogue de sa voix doucereuse en regardant l'œuf que Ruzard tenait entre ses mains.
« Peeves n'aurait certainement pas pu s'introduire dans mon bureau. »« Cet œuf était dans votre bureau, professeur ?»« Bien sûr que non. » répliqua sèchement Rogue. « J'ai entendu des coups et des cris. »« Oui, professeur, c'était l'œuf. »«
Je suis venu voir ce qui se passait. »«
Peeves l'a jeté dans l'escalier, professeur. »« Oui, et quand je suis passé devant mon bureau, j'ai vu que les torches étaient allumées et que la porte d'une armoire était entrouverte. Quelqu'un l'a fouillé. »« Mais Peeves n'aurait pas pu. »« Je le sais bien, Ruzard, » lança Rogue d'un ton brusque. « Je ferme mon bureau à l'aide d'un sortilège que seul un sorcier a le pouvoir de briser. »
Rogue scruta l'escalier en regardant à travers Harry, puis tourna la tête vers le couloir à l'étage inférieur.
« Je veux que vous m'aidiez à chercher ce rôdeur, Ruzard. »« Oui, professeur, mais... »
Ruzard jeta dans l'escalier un regard avide. Harry devinait à son expression qu'il répugnait à laisser échapper une si belle occasion de coincer Peeves.
« Vas-y, » pensa Harry de toutes ses forces. « Va avec Rogue, allez, allez, vas-y. »
Derrière les jambes de son maître, Miss Stein observait l'escalier. Harry avait la très nette impression qu'elle parvenait à sentir son odeur. Pourquoi avait-il rempli son bain avec des mousses aussi parfumées ?«
Il faut comprendre une chose, professeur, » dit Ruzard d'une voix plaintive. « C'est que monsieur le directeur sera bien obligé de m'écouter cette fois. » « Peeves a volé quelque chose à un élève, c'est peut-être ma chance de le faire renvoyer définitivement du château. »« Ruzard, je me fiche éperdument de ce misérable esprit frappeur, il s'agit de mon bureau qui... »
Rogue s'arrêta net. Ruzard et lui se retournèrent en même temps. Harry vit alors la silhouette claudiquante de Maugrey Folleuil apparaître entre leurs deux têtes, vêtu de sa vieille cape de voyage qu'il avait mise par-dessus sa chemise de nuit. Maugrey s'arrêta au pied d'escalier, appuyé sur son habituel bâton.
« Alors, on fait une petite promenade nocturne ?» grogna-t-il.
« Le professeur Rogue et moi avons entendu des bruits, professeur. » dit aussitôt Ruzard. « C'était Peeves, l'esprit frappeur, qui jetait des objets comme d'habitude, et là-dessus, le professeur Rogue s'est aperçu que quelqu'un s'était introduit dans son bureau. « T'es fou !»
l'interrompit Rogue. Maugrey s'avança d'un pas. Harry vit son œil magique se poser sur Rogue, puis inévitablement sur lui-même. Harry sentit son cœur faire un terrible bond dans sa poitrine. Maugrey était capable de voir à travers les capes d'invisibilité. Lui seul pouvait comprendre toute l'étrangeté de la scène. Rogue en chemise de nuit, Ruzard serrant l'œuf contre lui, et derrière eux, Harry pris au piège de la marche. L'entaille asymétrique, qui tenait lieu de bouche à Maugrey, s'ouvrit sous l'effet de la surprise. Pendant quelques secondes, Harry et lui échangèrent un regard. Puis Maugrey referma la bouche et tourna à nouveau son œil bleu vers Rogue.
« Est-ce que j'ai bien entendu, Rogue ?»
demanda-t-il lentement.
« Quelqu'un s'est introduit dans votre bureau. »«
Aucune importance !» répliqua froidement Rogue.
« Au contraire, grogna Maugrey, c'est très important. Qui donc cherchait à s'introduire dans votre bureau ?»«
Un élève, j'en suis convaincu !» répondit Rogue. Harry vit une veine palpiter à la tempe de Rogue. « Cela s'est déjà produit dans le passé, des ingrédients entrant dans la composition de certaines potions disparues de mon armoire privée, des élèves qui essayaient de préparer des mélanges interdits sans aucun doute. »«
Et cette fois aussi, vous croyez qu'il s'agissait de voler des ingrédients ?» interrogea Maugrey. « Vous ne cachez rien d'autre, hein, dans votre bureau ?»
Harry vit le teint cireux de Rogue prendre une horrible couleur rouge brique et la veine de sa tempe palpiter de plus en plus vite. « Vous savez très bien que je n'ai rien à cacher, Maugrey, » dit-il d'une voix menaçante, « puisque vous avez vous-même fouillé minutieusement mon bureau. » Le visage de Maugrey se tordit en un sourire.
« Tel le privilège des aurores, Rogue. » Dumbledore m'a demandé d'ouvrir l'œil.
Il se trouve que Dumbledore me fait confiance, dit Rogue les dents serrées. Je refuse de croire qu'il vous ait donné l'ordre de fouiller mon bureau.
Bien sûr que Dumbledore vous fait confiance, rugit Maugrey. C'est un homme confiant. Il croit qu'on peut donner une deuxième chance à tout le monde. Mais moi, je dis qu'il y a des tâches qui ne s'effacent pas, Rogue. Ou qui ne s'effaceront jamais. Vous voyez ce que je veux dire ?
Rogue eut alors un comportement très étrange. D'un geste convulsif, il saisit son bras gauche avec sa main droite comme s'il venait d'éprouver une soudaine douleur. Maugrey éclata de rire.
« Allez donc vous recoucher, Rogue !» dit-il.
« Vous n'avez aucune autorité pour me dire ce que je dois faire !»
protesta Rogue d'une voix sifflante. Il lâcha son bras en ayant l'air d'être en colère contre lui-même.
« J'ai autant le droit que vous de me promener la nuit dans cette école !»«
Eh bien, allez donc vous promener ailleurs !»
répliqua Maugrey d'une voix pleine de menaces.
« J'aimerais bien vous rencontrer dans un couloir sombre, moi, un de ces jours. En fait, vous avez perdu quelque chose. »
Avec horreur, Harry vit Maugrey montrer du doigt la carte du maraudeur qui se trouvait toujours sur une marche de l'escalier. Tandis que Rogue et Ruzard se retournaient tous deux pour la regarder, Harry risqua le tout pour le tout. Il leva les bras sous sa cape et fit des signes frénétiques à Maugrey pour attirer son attention en formant silencieusement sur ses lettres les mots « C'est à moi, à moi ». Rogue tendit le bras pour la ramasser. Une horrible expression apparut sur son visage. De toute évidence, il commençait à comprendre.
« Action, parchemin !»
La carte s'envola, glissa entre les doigts de Rogue, qui s'apprêtait à s'en saisir, et alla atterrir dans la main de Maugrey. Harry se mordit la lèvre. Lorsque son pied était passé à travers la marche, il s'était laissé gagner par la panique et avait vainement essayé d'effacer la carte avec sa baguette magique, sans même penser à utiliser un sortilège d'attraction pour la récupérer. Quel idiot !
Excusez-moi, je me suis trompé,
dit alors Maugrey d'une voix tranquille.
En fait, ce parchemin est à moi. J'ai dû le laisser tomber tout à l'heure.
Mais les yeux de Rogue se posèrent alternativement sur l'œuf que Ruzard avait toujours entre les mains et la carte que tenait Maugrey. Harry voyait qu'il était en train d'établir une relation entre les deux, comme seul Rogue savait le faire.
« Potter, » murmura-t-il. « Qu'est-ce que vous racontez ?»
dit Maugrey d'une voix paisible en pliant la carte qui glissa dans sa poche.
Potter,
gronda Rogue. Il tourna la tête et fixa l'endroit où Harry se trouvait comme s'il avait soudain pu le voir.
Cet œuf, c'est l'œuf de Potter. Ce parchemin appartient également à Potter, je le reconnais, je l'ai déjà vu. Potter est ici, sous sa cape d'invisibilité.
Rogue tendit les mains en avant comme un aveugle et commença à monter lentement l'escalier. Harry aurait juré que ses narines s'étaient dilatées pour essayer de sentir son odeur. Pris au piège, il se pencha en arrière, essayant d'éviter les doigts de Rogue tendus vers lui. Mais à tout instant...
« Il n'y a rien là-haut, Rogue !»
aboya Maugrey. « Mais je serais heureux de signaler au directeur avec quelle précipitation vous avez pensé à Harry Potter. »«
Ce qui signifie... »
grogna Rogue en se retournant à nouveau vers Maugrey, les mains toujours tendues à quelques centimètres de la poitrine de Harry.
« Ce qui signifie que Dumbledore sera très intéressé de savoir qui a une dent contre ce garçon !»
répliqua Maugrey en se rapprochant un peu plus du pied de l'escalier. « Et moi aussi, ça m'intéresse, Rogue, ça m'intéresse beaucoup !»
La lueur de la torche qui tremblotait sur son visage couturé accentuait plus que jamais les contours de ses cicatrices et de son nez mutilé. Rogue était toujours tourné vers Maugrey, et Harry ne pouvait voir l'expression de son visage. Pendant un instant, plus personne ne bougea et plus un mot ne fut prononcé. Puis, lentement, Rogue baissa les bras.
« Je pensais simplement,
dit-il enfin d'une voix qu'il s'efforçait de maîtriser,
que si Potter rôdait encore dans le château en pleine nuit, comme il en a pris la fâcheuse habitude, il vaudrait mieux le convaincre d'y renoncer pour sa propre sécurité.
« Mais, Maui, je comprends, dit doucement Maugrey. Ce qui vous tient le plus à cœur, c'est de défendre les intérêts de Potter, n'est-ce pas ? »
Il y eut un moment de silence. Rogue et Maugrey continuaient de se défier du regard. Mistaigne lança un miaulement sonore sans cesser de fixer l'escalier, cherchant l'origine de cette odeur de bain moussant.
« Je crois que je vais retourner me coucher, » dit Rogue d'un ton brusque.
« C'est la meilleure idée que vous avez eue cette nuit, » répliqua Maugrey. « Et maintenant, Rosa, si vous voulez bien me donner cet œuf. »
« Ah non !»
protesta Rosa en serrant l'œuf contre lui comme si c'était son fils nouveau-né.
« Professeur Maugrey, c'est la preuve de la malfaisance de Peeves !»«
Cet œuf est la propriété du champion à qui il l'a volé, » dit Maugrey. « Alors donnez-le-moi. »
Rogue descendit rapidement les marches et passa devant Maugrey sans dire un mot. Rusard fit un petit bruit avec ses lèvres pour appeler Mistaigne, qui regarda encore Harry pendant quelques instants avant de suivre enfin son maître au bas de l'escalier. La respiration encore haletante, Harry entendit les pas de Rogue s'éloigner dans le couloir. Rusard donna l'œuf à Maugrey et disparut à son tour en marmonnant à l'adresse de Mistaigne.
« Ça ne fait rien, ma jolie. » On ira voir Dumbledore demain matin, on lui dira ce qu'a fait Peeves. »
Une porte claqua. Harry resta face à Maugrey qui posa son bâton sur la première marche de l'escalier et commença à monter laborieusement vers lui dans le claquement sourd et régulier de sa jambe de bois.
« De là, il s'appelle Bell Potter. »
« Oui, oui, merci, » dit Harry d'une voix faible.
« Qu'est-ce que c'est que ça ?»
demanda Maugrey en sortant de sa poche la carte du maraudeur qu'il déplia.
« Une carte de Poudlard, » répondit Harry. Sa jambe lui faisait mal et il avait hâte que Maugrey le libère enfin.
« Par la barbe de Merlin, »
marmonna Maugrey en contemplant la carte, son œil magique pivotant dans tous les sens.
« Ça ? Ça, c'est une carte, Potter ?»«
Oui, elle est très, très utile, » dit Harry.
La douleur de sa jambe était si forte à présent qu'il en avait les larmes aux yeux.
« Professeur Maugrey, est-ce que vous pourriez m'aider ?»«
Quoi ? Ah oui, bien sûr. »
Maugrey le prit par le bras et le souleva, libérant la jambe de Harry qui monta sur la marche supérieure.
« Potter, »
dit lentement Maugrey en regardant à nouveau la carte du maraudeur.
« Tu n'aurais pas vu par hasard. » Qui s'est introduit dans le bureau de Rogue ? Sur la carte, je veux dire.
Si, j'ai vu, répondit Harry. C'était M. Copton.
L'œil magique de Maugret parcourut rapidement la carte dans son entier. Il eut l'air soudain inquiet.
« Croupton, dit-il. « Tu es sûr, Potter ?»«
Absolument sûr, affirma Harry.
« En tout cas, elle n'est plus là,
remarqua Maugret sans détacher son œil de la carte.
« Croupton, voilà qui est très intéressant. »
Il resta silencieux près d'une minute en continuant d'examiner la carte. Harry se rendait compte que ce qu'il venait de lui dire avait un sens pour Maugret, et il aurait bien voulu savoir lequel. Il se demanda s'il allait oser lui poser la question. Maugret lui faisait un peu peur. Pourtant, grâce à lui, il venait d'éviter de très sérieux ennuis.
« Professeur Maugret, à votre avis, pourquoi M. Croupton a-t-il voulu fouiller le bureau de Rogue ?»
L'œil magique de Maugret se détacha de la carte et se fixa, frémissant, sur Harry. C'était un regard brillant, pénétrant. Harry avait l'impression que Maugret le jaugeait, en se demandant s'il devait lui répondre ou pas, et si oui, jusqu'où il pouvait aller dans ses confidences.
« On va présenter les choses comme ça, Potter. Enfin, tout le monde dit que le vieux Folleuil est obsédé par les adeptes de la magie noire. Il essaie de les débusquer partout. Mais Folleuil, ce n'est rien, absolument rien comparé à Barty Croupton. »
Il recommença à examiner la carte, mais Harry brûlait d'en savoir plus. « Professeur Maugret, reprit-il, pensez-vous que tout cela pourrait avoir un rapport avec... Peut-être que M. Croupton pense qu'il se passe quelque chose.
« Quoi ? Par exemple ?»
dit sèchement Maugret. Harry se demanda jusqu'où il oserait aller. Il ne voulait pas laisser entendre à Maugret qu'il avait une source d'information extérieure à Poudlard, de peur qu'il lui pose des questions délicates au sujet de Sirius. « Je ne sais pas, murmura Harry, il s'est produit de drôles de choses ces temps-ci, non ? On en a parlé dans la Gazette du Sorcier, la marque des ténèbres pendant la Coupe du Monde, les mange-morts et tout le reste. » Les deux yeux de Maugret s'écarquillèrent.
« Toi, l'esprit vif, Potter !»
Son œil magique se posa à nouveau sur la carte du maraudeur.
« Il se peut que Croupton ait pensé la même chose. » poursuivit-il lentement. « Très possible. Des drôles de rumeurs ont circulé ces derniers temps, relayées par Rita Skeeter, bien entendu. Beaucoup de gens sont inquiets, je crois. »
Sa bouche se tordit en un sourire sinistre, tandis que son œil magique se fixait sur le coin inférieur gauche de la carte.
« Il y a une chose que je déteste, »
marmonna-t-il plus pour lui-même que pour Harry.
« C'est un mange-mort en liberté. »
Harry le regarda. Maugret voulait-il vraiment dire ce qu'il avait l'impression de comprendre ?«
Et maintenant, je vais te poser une question, Potter. »
reprit Maugret d'un ton qui était davantage celui d'un professeur. Harry ressentit un pincement au cœur. Il s'y était attendu. Maugret allait lui demander où il s'était procuré cette carte, qui était un objet magique des plus suspects. Or, la façon dont elle lui était tombée entre les mains impliquait son propre père, Fred et George Wesley, et Lupin, leur précédent professeur de défense contre les forces du mal. Maugret agita la carte sous le nez de Harry, qui se préparait au pire.
« Est-ce que je peux t'emprunter ceci ?»« Oh,
oh !» Il tenait beaucoup à cette carte, mais il était profondément soulagé que Maugret n'ait pas cherché à savoir d'où elle lui venait. De plus, il avait sans nul doute une dette envers lui.
« Oui, d'accord, »
répondit-il.
« C'est très gentil à toi, » grogna Maugret. « Elle pourrait m'être bien utile. C'est peut-être même exactement ce dont j'avais besoin. Bon, allez. » « Potter, au lit, maintenant. »
Ils montèrent l'escalier ensemble, Maugret continuant d'examiner la carte comme s'il s'agissait d'un trésor tel qu'il n'en avait jamais vu. Ils marchèrent en silence jusqu'à la porte du bureau de Maugret, qui s'arrêta et se tourna vers Harry.
Tu n'as jamais envisagé de faire une carrière d'aurore, Potter ?
Non, répondit Harry, pris au dépourvu.
Tu devrais y réfléchir,
dit Maugrey en le regardant d'un air songeur.
Oui, vraiment. Au fait, j'imagine que tu n'as pas emporté cette offre simplement pour aller te promener.
Non, avoua Harry avec un sourire. J'ai travaillé à résoudre l'énigme. Maugrey lui lança un clin d'œil, son œil magique recommençant à tourner dans tous les sens.
Rien de tel qu'une petite balade nocturne pour avoir des idées, Potter. À demain.
Il rentra dans son bureau en regardant à nouveau la carte du maraudeur et referma la porte derrière lui. Harry retourna lentement à la tour de Gryffondor, perdu dans ses pensées. Il songeait à Rogue, à Croupeton, et à tout ce que cela pouvait bien signifier. Pourquoi Croupeton faisait-il semblant d'être malade, alors qu'il n'avait aucune difficulté à se rendre à Poudlard? Et qu'espérait-il trouver dans le bureau de Rogue? Et Maugrey, qui pensait que Harry pouvait faire un bon aurore. Une idée intéressante. 10 minutes plus tard, lorsqu'il se glissa dans son lit à baldaquin, l'œuf et la cape soigneusement rangés dans sa grosse valise, il songea qu'il vaudrait peut-être mieux regarder d'abord si les autres aurores avaient autant de cicatrices que Maugrey avant de se lancer dans la carrière.